Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 137e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les vendredis matins à 8h pour une petite sélection de l'actu, qu'il s'agisse de gaming, d'app, de culture ou de tech. Une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquil.
Est-ce que ça va bien cette semaine?
Eh ben écoute, chaudement comme plein de gens, je crois.
Moi je suis ravi parce qu'en fait je découvre que dans mon nouvel appartement, il peut faire 30 degrés dehors, il fait super frais à l'intérieur et ça c'est que du bonheur.
C'est vrai, mais par solidarité avec les gens. J'ai dit que je souffrais, parce qu'en fait, c'est pareil ici. Mais comme c'est un appart dans lequel je vais pas être non plus pendant très très longtemps, je fais pas trop le malin, tu vois. Donc, il y a des moments où il faut anticiper les problèmes. Et, parce que, disons, mais Fasque et Caf, ils étaient contents de leur appart. Oui, mais bon, dans la vie, il y a des choses changent, c'est tout. Voilà, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien.
Allez, on attaque ce sommaire puisqu'on va avoir une grosse partie en fin de podcast sur la keynote Apple. On va attaquer avec le gaming et on va commencer par The Last of Us 2. Enfin, partout, pardon.
Partout, et on va pas en parler en vrai. Okay. Parce qu'en fait, c'est impossible de parler et de faire le test du jeu sans spoiler de manière assez violente le scénario. Par contre, je voulais parler des abrutis qui avaient review bombé le jeu, sans y jouer, hein, très clairement.
Un grand classique.
Classique, parce que là, on est quand même sur des records assez historiques côté métacritique. Alors oui, les notes métacritiques, on en pense ce qu'on veut, gna gna gna. Ça reste des indicateurs qui sont importants pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, mais qui les vendent. Je sais, c'est un concept qui peut surprendre certaines personnes, mais c'est comme ça que le monde marche, vous le savez. Il y a plein de gens qui vendent des jeux vidéo comme on vend des croquettes pour chats. Et encore, il y a des gens qui vendent des croquettes pour chats avec beaucoup plus de respect pour les chats et les croquettes. Donc là, on est vraiment sur du 94% par exemple pour le Metascore. Donc ça, c'est les critiques qui viennent de la presse, des blogs, etc. User score, on est sur un 4,5 et encore ça remonte hein, parce que les fans qui ont fini le jeu sont en train de genre de mettre du 100, du 10 en mode genre mais vous êtes vraiment des débiles.
Ça me rappelle Captain Marvel quand le film est sorti. Tiens, c'était exactement le même bordel.
Ouais, et c'est pas très éloigné hein, parce que c'est la même population de crétins qui va bomber le truc. Alors je vais être très très clair, je n'ai pas aimé Last of Us Part 2, mais je l'ai pas aimé pour des raisons de gameplay qui sont les mêmes qui m'avaient saoulé dans le Part 1. On savait pas que c'était le 1 à l'époque, donc voilà. Mais dans The Last of Us, le premier, il y avait plein de choses qui m'avaient saoulé. Le fait de devoir fouiller des tiroirs sans arrêt, de passer vachement de temps à crafter des armes. Là, tu peux toujours pas récupérer une arme. Si tu vois que t'as une arme qui est abîmée et que tu as de quoi la réparer, bah, t'es obligé d'attendre qu'elle soit complètement niquée avant de pouvoir la réparer. Enfin, des petits trucs à la con, quoi. Et des choses qui sont lourdes au final. J'ai jamais été un énorme fan des combats de Last of Us. En revanche, d'un point de vue réalisation technique, c'est une baffe, mais colossale, c'est magnifique, avec des trucs que tu vois jamais en jeu vidéo. Genre, essaye de te rappeler d'une scène dans un jeu vidéo où t'as un personnage qui se déshabille, qui enlève un vêtement, vraiment, tu vois. C'est juste un cauchemar à faire en 3D. Donc, il y a des scènes où, justement, tu vois Ellie, qui est toujours évidemment présente dans cette part 2, qui enlève une chemise, qui est blessée, etc. Donc, c'est ultra bien fait, je veux dire, c'est vraiment des trucs... On oublie, tu vois, à quel point, techniquement, t'as envie de te flinguer quand tu dois faire ça et qu'il y a un mec qui te dit « Dis donc, alors toi, pour la semaine prochaine, ton boulot, ça va être de faire des textures qui glissent les unes sur les autres avec des mouvements de tissu, ça va être trop facile pour toi. » Donc généralement, tu claques ta démission là. Mais donc voilà, le jeu qu'on l'aime pas pour des problématiques de gameplay, très bien. Que les mecs fassent du review bombing, c'est un problème. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons que j'ai détaillées dans un post qui est planqué dans un spoiler, dans une autre balise spoiler sur le forum de Geekzone que je vous linkerai dans le billet qui accompagne le podcast pour les curieux. C'est pas une news, hein, j'ai écrit ça à l'arrache, donc vous attendez pas non plus un truc, mais c'est pour ceux qui veulent complètement se spoiler le jeu ou qui l'ont terminé et qui veulent comprendre ce qui s'est passé, ou qui en ont rien à foutre, mais qui aimeraient comprendre le drama autour de ça. C'est très simple, c'est que Ellie, et ça c'est pas un spoiler parce que c'était dans les présentations du jeu à l'E3 l'année dernière, est un personnage gay du coup, tu vois une population que ça va trigger, comme on dit sur les internets. Et puis derrière, tu te retrouves avec un truc dont je ne peux pas vous parler en podcast sans spoiler le jeu, mais qui est un move qui est vraiment une position au niveau de la narration très particulière, qui se de mémoire, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, et qui a réellement agacé énormément de gens, même. C'est pas ceux qui ont review bombé en majorité, hein. Ceux qui ont fait les, il y a deux raisons majeures qui ont majoritairement provoqué la colère d'une certaine population de gens un peu limités du bulbe. Et, bon, bah, ces deux raisons-là, il y en a une que je viens de citer, l'autre, je peux pas la citer sans vous pourrir le scénario du jeu, donc, à votre discrétion, comme on dit, pour aller voir mon petit post sur le forum. Le titre ne mérite absolument pas, évidemment, moins de 5 sur le Metacritic côté user. Après, qu'on aime ou qu'on aime pas ce qui a été proposé et la proposition de gameplay, c'est une problématique qui n'a rien à voir. Et bon, bah voilà, moi personnellement, j'avais pas ultra accroché au 1. Je l'ai fini avec plaisir parce que je voulais voir la fin de l'histoire, etc. Mais tu vois, j'ai été porté par le scénario. C'est pas le gameplay qui m'a fait revenir vers le jeu. Au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre. Il y avait des trucs où j'avais juste même plus envie de jouer. Donc, c'est un jeu qui se joue très bien sur YouTube. Hein. Si vraiment vous voulez pas claquer 60 balles et que vous êtes pas fan, c'est aussi possible. Mais voilà, donc je voulais en parler. C'est pas un vrai test, hein, mais je voulais quand même vous donner des infos sur ce titre qui est la grosse sortie actuellement et qui fait couler beaucoup d'encre numérique.
Oui, j'ai cru comprendre. Et puis, surprise du côté des Pokémon, puisqu'ils se mettent à Dota.
Alors ça m'a fait trop marrer. D'habitude, on parle pas ce genre de conneries, mais quand j'ai vu la news passer, j'ai fait genre, ok les mecs, je vais être obligé d'en parler dans Torréfaction, bravo. Oui, alors il y a un titre qui s'appelle Pokémon Unite, qui sort, et ça me fait beaucoup rire, parce que c'est une copie de League of Legends, et donc c'est une copie de Dota 2. Donc oui, vous ne rêvez pas, il y a un Pokémon en MOBA qui va sortir. C'est assez particulier. Alors au niveau du style, en plus, tu sens vraiment qu'ils ont piqué tout ce qu'il fallait piquer chez League of Legends plutôt que chez Dota 2. Ça va sortir sur Switch, iOS et Android. Donc on n'est pas quand même sur un jeu ultra haut de gamme. Si vous cherchez la version PC, ils sont pas complètement débiles. Ils vont pas y aller. ils savent très bien que c'est pas vraiment là où il faut aller se battre. Mais ça me fait marrer. Donc je vous ai linké une petite news avec la bande-annonce. Parce que, bah écoutez, moi, quand un voleur se fait voler quelque part, ça me fait un petit peu rire. Vous allez voir en plus au niveau de l'interface pourquoi je dis ça, c'est parce que les barres de vie, etc., c'est vraiment, mais vraiment League of Legends, c'est la même chose. Je pense qu'on peut se cacher dans les herbes de la même manière, hein, c'est pas du juke à la Dota 2. Enfin, ils ont pas fait un MOBA ultra haut de gamme, hein, c'est normal, hein, c'est pas le but, hein, ça reste des Pokémon sur mobile et sur Switch, les gars. Mais bon, voilà, vous irez voir ça, c'est un peu marrant. Et puis, par contre, si vous êtes quelqu'un de pervers et vous voulez éduquer vos enfants au MOBA et les emmener sur Dota 2 plus tard, car vous êtes quelqu'un de goût, eh bien, c'est comme ça que ça peut se passer.
Allez, on passe du côté des apps, et tu voulais reparler d'une app dont on avait déjà parlé sur Geekzone il y a quelques mois, qui s'appelle Audio Overload.
Exactement, c'est une petite app rigolote pour aller écouter des musiques de jeux vidéo ou autres. Hein. D'ailleurs, il y a plein de musiciens qui font des trucs avec ces formats-là. Ça permet d'écouter tous les formats old school, depuis l'Amiga jusqu'au MSX, le Sharp X68000, la Nintendo NES, la PlayStation 2, l'Atari XL pour les plus vieux, le NEC PC 98, presque plein de trucs en fait. Donc ce player sait lire tous les formats de fichiers de musique à la con.
Et il émule très bien les sons d'origine en plus, voilà. C'est ça surtout.
C'est la qualité du moteur qui est derrière le truc, c'est ça qui fait la renommée de ce soft. Et pourquoi on en reparle? C'est parce que en fait, il y a une version qui est mise à jour, c'est le soft, il a 10 ans, hein. On n'est pas en train de vous parler d'une nouveauté, mais d'après ce que tu me disais, toi, t'as vu qu'il était plus supporté sur Windows, mais que ça marchait toujours.
Ouais, ça fonctionne toujours. Il y a une ancienne version qui a quelques années, je crois, maintenant, mais qui fonctionne et qui date de la période à laquelle on en avait parlé sur Geekzone. Et puis, a priori,
qui était 2018, hein, c'était pas non
2018,
plus.
2018, ok, ouais, je pensais que c'était plus vieux que
non,
ça.
Non.
Et donc, il y a une version Mac qui vient d'être mise à jour là, il y a quelques semaines, visiblement, donc pour supporter le nouvel OS, j'imagine. Et donc, ça valait le coup d'en reparler.
Ouais, en fait, c'est surtout qu'en plus, là, c'est zéro prise de tête, parce que c'est disponible directement sur le Mac Store, en fait, enfin, ouais. L'Apple Store, directement sur macOS. Le mec s'est pas fait chier, c'est très bien comme ça. Et derrière, bah, vous pouvez aller récupérer des musiques un peu partout sur le net. Ça marche très très bien, c'est hyper simple d'emploi et l'interface est vraiment réussie sur Mac. Enfin, on est vraiment sur les standards classiques. Pour ceux qui se rappellent de SeedPlay, qui est un outil pour spécifique pour les musiques du Commodore 64, c'est un peu le même genre. C'est moins fouillé, c'est moins complexe SeedPlay, qui est vraiment la Rolls dans le genre, mais qui ne fait qu'un truc, mais qui le fait très bien du coup. Mais là, Audio Overload permet de faire un petit peu tout et c'est la 2.2.1 et à mon avis, vu le taf derrière, c'est pas prêt d'arrêter d'être supporté.
On continue dans les apps avec un titre, je vais sortir le slow clap en fait pour l'applaudir parce que je le trouve très joli dans la conduite, donc tu as titré Microsoft retire sa main du mixeur.
Ah yes.
Voilà, moi j'applaudis.
Merci, merci, merci. Ça, je me suis fait rire tout seul, ce qui arrive assez rarement, surtout en ce moment. Hein. Oui, parce que donc c'est très drôle, c'est l'annonce surprise de la semaine. C'est Microsoft qui a décidé de fermer Mixer le 22 juillet.
Alors que ça venait tout juste de commencer. Hein.
Alors en fait, ça fait tellement longtemps que c'est sorti, et ça fait tellement longtemps que ça marche pas, c'est qu'on oublie en fait au bout d'un moment.
Ok, d'accord.
Parce qu'en fait, ils avaient renommé le truc et tout. Donc pour ceux qui débarquent et qui savent pas du tout ce que c'est, Mixer est censé être un concurrent de Twitch. Donc c'est pour streamer du jeu vidéo, etc. Et ils étaient en train de construire leur base d'utilisateurs. Ils avaient fait des gros moves et c'est pour ça que c'est très drôle de le fermer le 22 juillet sans avoir prévenu personne dans la communauté. Hein. C'est-à-dire que Microsoft, au niveau du management, n'a prévenu personne, que ça soit dans les employés un petit peu plus low level qui l'ont appris quelques heures avant la décision, enfin l'annonce officielle, et leurs partenaires, donc les gens qui font le contenu sur Mixer, bah eux, ils ont lu la news sur Internet. Ce qui fait toujours plaisir quand tu bouffes grâce au stream que tu fais chez Mixer et que t'as décidé de construire ta communauté chez eux au lieu d'aller chez Twitch comme tout le monde en fait.
Eh ben désolé.
Et ça c'est génial. Et donc pourquoi en plus c'est délicieux? C'est parce qu'en plus Mixer a dépensé, donc Microsoft a dépensé des millions de dollars pour débaucher des streamers très connus de Twitch pour les faire venir chez eux. Évidemment comme prévu, bah la communauté n'a pas suivi en disant bah ouais mais ça me gave. Donc faut quand même savoir qu'ils ont débauché Ninja qui était le streamer numéro 1 de Twitch pour la rondelette somme de 30 millions de dollars.
Oh,
et c'est ça. Et Shroud n'a eu que 10 millions de dollars parce que bah voilà, il avait qu'à faire du Fortnite comme tout le monde. Et la blague, c'est que les mecs ont eu cette thune et sont dégagés de toute obligation. Parce que Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un move où ils ont vendu leur base de streamers à Facebook en fait. Pour leur service de streaming vidéo, qui est dégueulasse, hein, n'allez jamais sur ce truc. Je ne comprends même pas que des gens streament sur Facebook Gaming, hein, ça me dépasse. Mais Ninja et Shroud, ils ont fait hop, 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 minute, papillon, je crois qu'on avait fait rajouter des petites lignes dans notre contrat, nous, et nous, si tu nous fais aller ailleurs, on n'est pas obligé, en fait. Et évidemment, tu vois, c'est des gens qui, avec des millions de dollars pareil, quand tu verrouilles ton contrat, tu prends des vrais avocats et tu verrouilles que tu peux pas te faire avoir. Donc, la blague, c'est que les mecs ont pris la thune, c'est le hold-up du siècle, les mecs ont pris la thune et là, ils peuvent partir en vacances. Pour toute leur vie, hein, s'ils ont envie. Et ils sont pas du tout obligés d'aller trimer chez Facebook Gaming, qui, pour la petite info, a fait des offres encore pires pour essayer de les récupérer. On parle du double. Hein. Donc, on rentre dans le n'importe quoi. Et là, les mecs, ils ont fait non, mais pff, je vais pas reprendre 60 millions, ça me fatigue, tu vois, j'ai envie de partir en vacances. Donc, c'est hyper drôle. Alors, évidemment, je ne veux pas savoir à quel point ça a dû être un merdier en haut lieu. Enfin, si, en fait, j'aimerais bien être une petite souris pour écouter tous les trucs qui sont dits dans les salles de réu très très haut dans les étages chez Microsoft. Mais dépenser autant de fric. Bah, il y a si peu de temps pour finalement dire bon, on arrête parce que finalement ça marche pas. Il faut savoir que il y avait plusieurs millions, enfin on était dans les dizaines de millions d'abonnés pour Ninja sur Twitch. Et il a reconstruit une base d'à peu près 3 millions sur Mixer, ce qui est déjà énorme pour Mixer, mais ce qui est ridicule par rapport à la thune investie. Et donc en termes de viewers, à un moment T, c'était pas ouf, tu vois. Donc voilà, donc c'est compréhensible qu'ils arrêtent. Ce qui est moins compréhensible, c'est que tout le monde pensait qu'il y aurait une intégration de Mixer avec la future Xbox, un peu comme la PlayStation. Qui permet de faire du sharing de vidéos, les mecs se sont dit bah ils ont un service de streaming, ils vont l'utiliser forcément pour la prochaine Xbox, c'était le truc logique, tu vois. Bah non, ils l'ont flingué avant. Alors c'est pas le premier move débile de monsieur Microsoft, mais bon bah là du coup je pense que le truc était gangréné, ils ont décidé d'arrêter, mais ils l'ont fait d'une manière assez sale, on peut pas le dire autrement.
Et puis on termine cette sélection côté app avec Spark.
Alors ça va aller très vite. Spark, c'est mon client mail préféré qui n'existe malheureusement que sur iOS et Android et macOS actuellement. Et ça ça fait très très longtemps qu'ils disent qu'ils ont une version Windows qui devrait débarquer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ça commence à sentir bon puisqu'ils ont ouvert la page d'inscription pour la bêta. Il n'y a pas de date d'annoncer, mais en tout cas, là, on peut s'inscrire. Et la surprise, c'est qu'il y a une version web de prévu aussi. Donc, tu pourras utiliser Spark un peu partout, quel que soit ton fournisseur d'email, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La version Android, après des débuts difficiles, fonctionne vraiment pas mal maintenant. Donc, c'est vraiment un client que j'aime beaucoup, qui permet de regrouper ses mails. Enfin, moi, j'ai plein de fournisseurs d'accès, donc ça permet de tout mettre au même endroit et de trier. Il y a toutes les fonctions d'un client moderne et une interface pas dégueulasse, ce qui nous change. Je voulais en profiter pour dire que j'avais testé Hey.com en détail, parce que j'en avais parlé la semaine dernière avec l'annonce, mais je ne l'avais pas testé. Mais j'ai eu mon invite entre-temps. Et comme prévu, j'aime pas du tout. parce que j'aime vraiment... Alors en fait, y a toutes les fonctionnalités qu'ils ont ajoutées ont un intérêt réel. Il y a vraiment plein de bonnes idées. Le fait de pouvoir renommer un sujet, un thread d'email, quand les gens savent pas quoi écrire ou font ou te répondent avec le mauvais thread, etc. Le fait de pouvoir regrouper tout ça, il y a plein de trucs qui sont des vraies bonnes idées, mais l'interface, c'est juste pas possible pour moi. Mais j'aime pas du tout l'interface de Basecamp, qui est leur outil de gestion de tâches, de projets, etc. Du coup, je ne suis pas très très surpris. Moi, j'ai vraiment besoin dans mes clients mail d'avoir, tu vois, ce qu'on appelle les trois panneaux, tu vois, avec les sujets, les mails, etc. Je suis à l'ancienne là-dessus. Et j'aime bien quand c'est propre, donc j'aime bien Spark. Quelle surprise. Mais sur Hey.com, ça fonctionne complètement différemment. De toute façon, les ouvertures vont se faire au public à partir du mois de juillet, et actuellement ils acceptent quasiment toutes les demandes d'invitation. Donc si vous voulez tester, eh bien faites-vous plaisir.
Allez, on passe du côté de la culture, et je voulais vous parler d'abord d'une série télé, Perry Mason. Est-ce que tu as regardé le reboot ou bien...
J'allais te dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est revenu dans les années loin, je sais même plus en quelle année c'était l'original.
De 57 à 66, la série originale, donc, avec l'inoubliable Raymond Burr dans le rôle du célèbre avocat criminel de Los Angeles.
Et tu sais qu'en plus, je me suis tapé sa photo pendant très longtemps, là, sur un projet, puisque j'étais en train de faire un site web pour des avocats.
D'accord.
Évidemment, en attendant les vraies photos, on a mis des avocats célèbres, dont celui-ci.
Voilà, il s'agit en réalité donc ici d'une mini-série. C'est pas vraiment une série, donc c'est un format court à la mode en ce moment. Série limitée dans la durée, dont la diffusion a commencé le 21 juin dernier sur HBO. Alors, j'ai pas pu vérifier. Je sais qu'en général, les sorties HBO, c'est disponible sur OCS. Faudra aller regarder si c'est le cas, sinon faudra faire appel à votre oncle Bob VHS. Alors, dans ce reboot, on retrouve l'excellent Matthew Rhys. J'essaie de pas trop massacrer son nom, qui est pas facile à prononcer. Dans le rôle principal, c'est un monsieur qu'on avait déjà pu voir dans The Americans, sans doute l'une des meilleures séries de ces 20 dernières années, à mes yeux en tout cas. Alors le ton ici de ce Perry Mason est assez différent de la série originelle, ça se passe dans les années 30, c'est toujours à Los Angeles, et ce sera en quelque sorte, nous dit-on, une origin story du personnage. On est en plein milieu des années d'or du cinéma à Hollywood, et forcément la thématique est très présente dans la série. On y retrouve un Perry Mason qui est en plein PTSD post-première guerre mondiale, avec en outre un divorce sur les bras, le tout pendant la Grande Dépression, donc c'est que du fun. Contrairement à la série originelle, on passe ici très peu de temps, en tout cas pour le moment, dans les salles d'audience. Il y a qu'un épisode qui est sorti, donc c'est un peu difficile de juger sur la durée. Et on y suit donc l'ami Mason qui va enquêter sur un kidnapping assez traumatisant. Je vous spoil rien, mais la scène du kidnapping est effectivement assez hardcore. Et bon, de fil en aiguille, on va découvrir le monde obscur qui se cache sous le vernis de la ville de Los Angeles. Je vous rassure, il y a de l'humour quand même, il y en a même beaucoup. Tout n'est pas complètement déprimant, et puis surtout, personnage principal est pour le moment super attachant. Et à la production, pour ceux que ça intéresse, on retrouve une bonne partie de l'équipe qui avait bossé derrière Boardwalk Empire, une autre série fantastique d'HBO sur une période finalement assez proche, c'était celle des années 20 et la Prohibition. Donc 8 épisodes de prévu, le premier est disponible donc soit chez OCS si c'est le cas, sinon chez Bob VHS. Et puis on continue dans la culture, je voulais vous faire découvrir un nouvel album d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Braids. C'est un groupe originaire de Calgary dans la province d'Alberta au Canada. Ils sont basés en revanche pour le moment à Montréal. C'est un trio qui est composé de la chanteuse Raphaël Stendel Preston et des musiciens Austin Tufts et Taylor Smith. Leur premier album qui s'appelait Native Speaker était sorti en janvier 2011, et perso j'avais instantanément accroché à cette espèce de croisement entre de la folk et de la musique électronique. Leur quatrième album vient tout juste de débarquer dans les bacs, il s'appelle Shadow Offering, et je ne saurais trop vous le recommander si vous ne connaissez pas le groupe. Il a déjà été listé parmi les meilleurs albums de 2020 jusqu'ici par le magazine Stereogum, et c'est produit par par l'ex-membre de Deathcap for Cutie, pour ceux qui s'en souviennent, le guitariste Chris Walla. Un album qui change un peu de leurs habitudes, du coup, puisque l'électronique est un peu moins prédominante et la production est un poil plus rock, mais il y a toujours des synthés, et puis surtout la voix merveilleuse de Raphaël Stendhal Preston, qui moi me rappelle souvent celle de Kate Bush. Bref, trêve de blabla, je propose qu'on écoute plutôt un extrait pour vous faire une idée, la plage d'ouverture de l'album, le tout mignon Here For You. Here For You, donc tiré du dernier album de Braids, intitulé Shadow Offering. On va passer à la grosse partie de ce podcast, mon cher Caf, puisque là, tu vas devoir te dédoubler, en fait, puisque j'ai l'impression que ça va être à la fois du Caf, mais aussi du Jean-Pierre Caf.
Ouais, non, je vais être resté calme. Non, au contraire, il n'y a pas vraiment de Jean-Pierre Caf. Hein,
c'est vrai?
Juste, c'est la conférence était un petit peu longuette au départ. De quoi parle-t-on? On parle de la keynote Apple de la Worldwide Developer Conference 2020, la WWDC. En français, évidemment, ça ne sonne pas très bien chez nous, mais tant pis, que j'ai commenté en direct sur Twitch, si vous voulez la regarder avec mes commentaires désabusés, surtout au départ, mais la vidéo va dégager assez rêve. Je ne sais plus combien de temps ça reste sur Twitch, mais bon, bref, si vous voulez regarder ça là-dessus, ne perdez pas trop de temps. Et en fait, au départ, on s'est un petit peu ennuyé parce que ce n'était pas une présentation complètement bouleversifiante jusqu'à ce qu'on nous parle du One More Thing, qu'ils ont pas annoncé d'ailleurs en mode genre et au fait il reste un truc ta. Ils ont juste dit bon au fait bon les rumeurs étaient vraies, voilà, enfin ils ont pas dit comme ça, mais donc il y a une transition énorme qui va se présenter puisque les Mac vont passer sur processeur ARM en partie au départ, et puis normalement d'ici 2 ans tous les Macintosh devraient être sous ARM. Donc salut monsieur Intel. Alors attention, quand je dis ARM, c'est la techno de base, puisque Apple ne parle jamais d'ARM, il parle de Apple Silicon. Et il faut savoir qu'Apple fait les processeurs de ses iPads et de ses téléphones depuis des années maintenant, et que ils explosent pas mal de monde à ce petit jeu, et ils ont décidé de faire la même chose sur leurs machines en général. Et ça va poser pas mal de questions, et je vais en parler à la fin. Mais au départ, on a eu évidemment les présentations des nouvelles versions. C'est une conférence développeur, hein, donc c'est normal qu'ils présentent les versions qui vont arriver des systèmes d'exploitation avec les modifications pour que les développeurs puissent les anticiper, les intégrer dans leur développement, adapter leur logiciel, etc. Donc, toutes les annonces étaient à peu près connues. Enfin, c'est comme tous les ans, c'est la même chose. Mais à chaque fois, en fait, c'était relativement mou du genou ce qu'ils présentaient pour chaque OS. C'est pour ça qu'en fait, on s'est un peu fait chier au départ. Il faut savoir qu'évidemment, normalement, cette présentation, cette keynote est live. Là, c'était une vidéo enregistrée, montée, et c'était franchement bien fait, à tel point qu'il y a plein de gens qui espèrent que ça sera le cas tous les ans, en fait. Puisque finalement, on perd pas grand chose par rapport au côté live, avec les applaudissements des fans et compagnie, tu vois. Enfin, je veux dire, ça ne rajoute pas grand chose à part le fait d'être une grosse messe. Et après, les gens qui sont sur place ont accès à des hands-on, à des machines, etc., juste derrière. Donc, il y a un intérêt, mais c'est pas le même prix. Donc, bon, il y a un entre-deux qui semble avoir convenu à pas mal de monde cette année. Donc, dans les annonces, on a quoi? On a iOS 14. Quelle surprise! iOS 14, en fait, il y a plein de fonctions qui sont inspirées, pour pas dire pompées d'Android. Et moi, je dis que c'est de bonne guerre, vu que Android a pompé quand même quasiment toute la base de son fonctionnement sur iOS en 2007, donc dès la création. Donc, j'ai envie de dire que c'est normal que les deux se pompent régulièrement. Et là, en fait, on a des trucs qui étaient attendus ou pas côté iOS depuis un moment. Donc, tu vas pouvoir planquer maintenant des pages complètes d'applications sur iOS, ce qui te donne dans les faits une sorte d'app drawer que tu as sur Android depuis la nuit des temps. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Alors après, ça dépend comment vous installez, comment vous gérez votre OS mobile. Moi, personnellement, ça me plaît, et puis en même temps, je m'en fous un petit peu, donc bon, voilà, on verra bien. Il y a les widgets qui débarquent en force, ça va faire rire les mecs sur Android, mais la blague, c'est que comme toutes les fonctions que tu voles après un moment... Elles sont mieux faites sur iOS, puisqu'ils ont pris le temps de regarder ce qu'ils pouvaient améliorer par rapport à l'existant. Donc, tu pourras maintenant avoir dans toutes tes pages, sur tout ton dashboard, en fait, qui est la page d'accueil, enfin, les pages d'accueil que tu as sur iOS, tu pourras avoir des applications qui te proposent d'installer des widgets pour la météo, la plage que tu es en train de lire, des news, etc., etc. Après, on verra ce que les développeurs inventent. C'est très, très joli. Je vous ai linké, évidemment, dans le billet qui accompagne ce podcast, plein d'infos, et toutes les pages Apple, qui sont des pages de preview, parce qu'Apple, tous les ans, fait ça avec des sites complets de preview du prochain OS, où vous voyez, avec un site super design, les informations intéressantes, enfin en tout cas celles qu'ils jugent intéressantes, qui vont vous mettre en avant. Et dans les trucs, justement, sur iOS, il y a plein de choses où on avait un petit peu rien à foutre, avec genre toutes les améliorations d'e-message. Alors, c'est très très bien, mais il y a plein de gens qui militent pour un e-message plus ouvert que sur l'écosystème Apple. C'est toujours pas le cas, donc on restera sur Telegram, nous. Ce genre de choses, enfin, moi, iMessage, j'utilise énormément, mais c'est vrai que ça reste limitant, puisque si tu veux utiliser des fonctions avancées, il faut que tout le monde soit sur du matos Apple, donc c'est un peu relou. T'as des fonctions Translate qui ont été annoncées, qui sont intéressantes, je vous laisserai aller voir sur le site d'Apple, mais pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues avec un design un petit peu moins léché chez Google, donc bon, voilà, super, tu vois. Par contre, la révolution, c'est qu'on va enfin pouvoir choisir ses applications par défaut pour le browser et le mail.
Ouais.
Et là, t'as des gens qui sont en mode genre, ouh, et t'as plein de gens qui sont en mode genre, ben on s'en fout, puisque mail.app, c'est la meilleure app mobile pour lire ses mails. Ok, très bien, mais moi, je mettrais Spark, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Donc, je peux enfin avoir Spark en client par défaut. Ça me fait très plaisir. Pour le browser, je suis plus divisé, puisque de toute façon, quel que soit le navigateur que vous utilisez sur iOS, le moteur de rendu reste toujours WebKit. Tu peux pas utiliser autre chose sur iOS, donc de toute façon, là-dessus, bon, super. Par contre, si vous synchronisez, je sais pas, vos trucs avec Firefox, etc., vous pourrez avoir Firefox par défaut. Si vous utilisez Chrome, je ne vous parle plus, c'est tout. Passons maintenant à macOS 10, qui n'est plus macOS 10. Repose en paix, macOS 10, car macOS 11 fait son arrivée. Et macOS 11, il a un petit nom, comme d'habitude. Et chez nous, ça va être Wesh Gros, parce que personne va comprendre comment ça se prononce. C'est Big Sur, qui est donc, comme d'habitude, un coin des États-Unis, puisque depuis les gros chats, on est passé à la géographie, avec des noms imprononçables. On se rappelle avec nostalgie de macOS Mojave.
Mojave.
Voilà, mais tu vois, personne, en France, personne n'a jamais su le prononcer. C'était un massacre tout le temps. Donc là, ça sera encore rigolo cette année. Et la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont redesigné en profondeur tout macOS pour cette version, puisque on se retrouve avec un look qui est largement inspiré de ce qu'on a sur iPad, avec des nouvelles icônes, un nouveau langage graphique pour les fenêtres, avec des bords beaucoup plus gros. Bref, quand tu lances ton Mac, tu viens d'un iPhone ou tu utilises un iPad et tu vas reconnaître beaucoup de choses. C'est pareil, je vais pas vous faire tout le détail. Il y a un site complet chez Apple qui vous explique pourquoi le dock, il est nouveau, il est vachement mieux, pourquoi le nouveau Safari, il est vachement bien et que vous allez continuer à pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez d'extensions. Sauf que là, normalement, avec ce nouveau Safari, les extensions vont être portables beaucoup plus facilement que ce qui était le cas actuellement. Donc, j'attends de voir ça. Ça serait temps. Ils ont mis la preview pour les tabs, etc. Ils s'annoncent encore plus rapide, mais enfin Safari a toujours été une tuerie en vitesse. Donc là-dessus, je suis pas étonné. Donc vous allez voir, il y a pas mal de changements. Il y a beaucoup de choses mises en avant au niveau de la sécurité, du respect de la vie privée. Vous savez qu'Apple là-dessus, c'est un petit peu leur cheval de bataille. C'est les mecs qui sont en première ligne. C'est clairement, on va pas compter sur Facebook ou Google pour aller nous défendre de ce côté-là. Hein.
Ah non.
Voilà. Donc même si vous les détestez, aimez-les quand même un petit peu juste pour ça. c'est quand même grâce à eux que ça avance. Bon, ils ont vraiment rajouté plein de choses. Évidemment, on s'est un peu moqué hein, pendant la présentation, parce qu'il y a tout un passage sur les Memojis qu'on n'utilise jamais en vrai dans les faits. Enfin, en tout cas, si vous les utilisez, n'hésitez pas à me faire part de vos use cases sur le forum de Geekzone. Parce qu'une fois que tu les as découverts et que tu as fait mumuse avec, régulièrement, tu oublies que ça existe, en fait. Hein. Faut pas se mentir. Et du coup, on est quand même sur un macOS qui annonce une grosse transition. Je vais en parler dans un instant, mais j'enchaîne sur tvOS 14, qui n'est pas très intéressant, sauf quand même pour un truc qui est censé nous apporter la 4K sur YouTube et AirPlay, car oui, les Apple TV, même 4K, ne géraient pas les vidéos YouTube en 4K. Grosse embrouille entre Google et Apple depuis des années sur les codecs à utiliser. Bon, apparemment, ils se sont mis d'accord, ou en tout cas, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils utilisent le nouveau codec et pas le codec historique 4K de chez Google. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne enfin. Et a priori, il y a aussi une gestion des multi-users pour pouvoir avoir chacun ses petits home screens, etc. Alors, c'est pas clair, en fait. C'est-à-dire que globalement, il y a des gens qui l'ont annoncé sur certains sites et d'autres qui ont dit, mais non, ça va juste être pour avoir ses propres préférences pour l'appli TV, etc. Donc, insultez-moi sur le forum si j'ai dit une bêtise. De toute façon, on a le temps d'ici à ce que ça sorte pour corriger ce genre de choses. WatchOS 7, je vous irai voir parce que j'ai pas le temps et on est déjà vachement trop long cette semaine. Pour parler du truc le plus important, c'est donc l'annonce de la transition Apple Silicon, dont je parlais en début de cette news. Donc Intel va dégager des Macintosh, qu'on n'appelle plus jamais Macintosh hein, d'ailleurs, mais bon bref. Le truc qui est impressionnant, c'est que ça sera la troisième transition de processeur chez Apple. Il n'y a aucune marque qui a jamais fait ça. Hein.
Et ça s'était pas très bien passé la dernière fois, hein, de mémoire.
Alors en fait, si.
C'est vrai. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de transitions douloureuses quand même à l'époque, mais peut-être que je me trompe.
Alors en fait, non, ça s'était plutôt bien passé. Il y a toujours un petit peu des applications qui vont faire chier, et puis surtout, t'as les gens qui viennent d'acheter une machine de l'ancienne génération et à qui on dit, au fait, on va changer bientôt. Bon, psychologiquement, c'est pas toujours très très bien vécu, même si je vous déconseille de sauter sur les nouvelles générations, puisque là, tu vis les problèmes, mais de l'autre côté de la barrière. Donc de toute façon, les transitions, il y a toujours un petit peu des trucs qui vont pas bien se passer, mais pour rappel, ils ont quand même survécu parce que quand tous les ordinateurs étaient sur Motorola 68000, bah ça a été les seuls à faire un saut vers le PowerPC en 1994 qui a été réussi. Faut pas oublier que le fait qu'il y ait pas de Motorola 68000 haut de gamme qui sorte et que Motorola lâche complètement cette génération de processeurs, ça a tué tous les Amiga, ça a flingué les Atari ST, etc., qui n'ont jamais investi pour pouvoir se moderniser et qui, eux, sont morts pendant que, finalement, bah, le Mac arrivait à passer tant bien que mal cette barrière. Bon, alors après, ils ont failli crever quand même, mais ils ont été sauvés par Monsieur Steve Jobs qui est revenu à la maison. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Et l'autre transition, eh bien, en fait, elle est pas si vieille que ça, hein, mais c'était il y a 15 ans, quand ils ont annoncé en 2005, bah, toujours à la WWDC, le passage au processeur Intel. Donc bah, là, c'était pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le PowerPC n'évoluait plus. Merci Motorola pour la deuxième fois. Enfin, il y avait plus de gens dans le consortium PowerPC, mais le processeur n'évoluait pas plus pour autant. Et du coup, c'était Freescale même à l'époque, hein, puisque Motorola a été renommé entre temps pour ceux qui suivent pas, et IBM à côté. Donc, bah, les mecs se sont dit, bon, bah, c'est de la merde, donc on va aller chez Intel comme tout le monde. Et cette transition, en fait, elle a été rendue possible parce qu'à chaque fois, les processeurs étaient vraiment plus puissants que les précédents. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, tu fais des émulateurs pour pouvoir faire tourner les applications qui tournaient avec l'ancien CPU et que la transition se fasse de manière relativement smooth. Donc, dans le cadre de la précédente transition, on avait découvert un soft qui s'appelait Rosetta.
Oui.
Et Rosetta, c'était notre copine, puisque c'était vraiment le soft qui permettait de faire tourner bah, tous les softs qu'on avait sur l'ancienne génération. Et vu qu'on venait de changer pour passer sur du Intel, forcément, il n'y avait pas encore grand-chose de disponible. Le truc qu'ils avaient fait, c'est que dès l'annonce de cette transition, ils avaient annoncé deux choses qui étaient très importantes. C'était les applications universelles, c'est-à-dire avec deux exécutables packagés dans le même soft, en fait. Donc, tu pouvais avoir directement la version Intel et la version PowerPC dans le même exécutable. Toi, tu t'en rendais pas compte, hein, tu téléchargeais un seul logiciel. Et Rosetta, donc, qui te permettait de faire l'émulation de tes anciens softs. Et ça, c'était la bonne nouvelle. Et pour pouvoir se préparer à la transition, ils avaient sorti un kit de développement qui permettait, qui s'appelait donc le Developer Transition Kit, qui coûtait déjà pas cher à l'époque et qui permettait donc aux développeurs d'acheter, d'en louer plus précisément cette machine pour pouvoir préparer la transition. Et bah tout ça, en fait, on le retrouve en version 2 sur la transition ARM, donc Apple Silicon, hein. Vous me traduirez à chaque fois que je dis ARM, puisque là, on va avoir Universal 2 et Rosetta 2. Et du coup, il y aura aussi des machines qui sont déjà disponibles dès cette semaine, qui sont des Developer Transition Kit que tu peux louer pour $500 dès maintenant. Alors historiquement, il faut savoir qu'Apple n'a jamais vraiment récupéré les autres. Donc si vous voulez le garder à terme, pourquoi pas. Et ça ressemble à quoi? C'est un Mac mini en fait, avec un système on a chip, donc le processeur, le cœur de l'iPad 2020 à l'intérieur. Et les premières démos sont assez impressionnantes. Alors évidemment... Évidemment, il y a plein de questions en suspens. On ne sait pas du tout en termes de puissance ce que ça va donner. Apple parle d'Apple Silicon, mais ne parle absolument pas de nom de CPU. Donc, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en fait dans ces premiers Mac ARM qui vont sortir. Là, les premiers sont prévus pour la fin de l'année, mais on ne sait pas du tout quel niveau de puissance réel on va avoir. Pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que ça sera pas un A12 dans les versions qui vont sortir commercialement. Ça, c'est juste pour la version de transition. Donc, j'imagine que ça sera plus puissant, puisque si tu n'as pas cette puissance, si tu veux, les gens, quand tu leur vends une nouvelle machine, ils sont hyper contents que tu leur dises que bah, ça consomme moins, que c'est écolo, que ça fonctionne très bien, tout ce que tu veux. Mais les gens qui achètent des Mac et au prix des MacBook Pro, par exemple, tu les achètes pas pour que Photoshop se mette à ramer, tu vois. Donc, même si le portage est déjà prêt, alors le truc qui est important à savoir, c'est que tous les gros éditeurs sont déjà ready to go. Hein. Il y a déjà des versions de Office qui tournent sur ARM, il y a déjà des versions des outils Adobe, les applications pro d'Apple sont déjà portées sur la plateforme ARM. Donc la surprise, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment super ready et que normalement, ça va pas nous faire le gros flop des Windows sur tablette ARM que Microsoft s'est mangé dans les dents. Donc ça va être un truc à suivre de très très près, mais il y a plein de questions. Donc, on n'a pas les niveaux de puissance, on ne sait pas exactement quelles seront les premières machines à switcher, on ne sait pas exactement comment macOS va évoluer pour suivre tout ça, parce que quand tu regardes les screenshots, tu te dis « putain, ça ressemble quand même vachement à un iPad, mais moi, je veux pas d'un seul système d'exploitation pour mes machines. » On sait ce que ça a donné avec Windows 8 chez Monsieur Microsoft, hein, paix à ton âme. On ne veut jamais revoir un OS comme ça qui essaye de tout faire et qui, du coup, fait tout mal.
C'est clair.
C'était l'enfer. Donc résultat des courses, il va falloir encore un peu de patience pour voir ce que ça donne. Je vous ai linké plein d'articles, plein de papiers pour voir un petit peu plus d'infos. Pour les gens qui sont les plus tech et les développeurs qui nous écoutent, j'ai linké un exemple de Tech Talk qui sont en fait les vraies conférences où t'as des vrais ingés d'Apple qui t'expliquent comment il va falloir faire telle ou telle chose sur tes applications avec des sujets assez pointus à chaque fois. Là j'en ai mis un qui est hyper intéressant qui m'a été linké par Alkama, que j'ai pas eu le temps de regarder en entier. Que je salue au passage, qui te permet en fait d'explorer en fait toute l'architecture des Mac avec cette fameuse transition silicone. Ça va être hyper intéressant à regarder pour les gens qui s'y connaissent. Hein. Sinon, je vous rappelle, vous allez être perdus très très vite. Hein. C'est vraiment pour les plus tech d'entre vous. Mais il y a plein de conférences gratuites accessibles comme ça. Donc c'est l'avantage de cette WWDC entièrement online. Donc ça, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'infos à aller digérer pour les gens qui travaillent sur ce domaine-là. Il y a un truc qui va poser problème, et ça, je ne sais pas du tout comment ils vont le gérer, c'est que cette transition ARM, ça va complètement nous couper de tout ce qui est virtualisation. Donc, tu ne peux plus avoir de Windows sur ton Mac, par exemple.
Plus de bootcamp. Donc,
bootcamp est mort. Et apparemment, il n'y a pas de choses qui ont été prévues tout de suite, mais il faut savoir que Windows existe et fonctionne sur ARM. Donc, mais pour l'instant, il est vendu qu'aux OEM. Donc, est-ce que Apple et Microsoft vont se mettre d'accord pour une version spéciale Mac? On ne sait pas, on verra bien. Et puis, tous les gens qui utilisaient les softs de virtualisation, genre VMware Fusion, etc., pour faire tourner Linux ou Windows dans des machines virtuelles, vont se retrouver coincés. Et ça ne va pas faire rire beaucoup de gens dans certains domaines un peu tech. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. Donc, plein de questions en suspens, mais en tout cas, une transition qui prépare l'avenir. Et s'ils partent dans cette direction-là, c'est à mon avis aussi parce que ça leur permet de faire des machines dont ils maîtrisent 100% de la chaîne, avec, entre autres, une partie dont j'ai pas parlé, mais la partie graphique, qui devrait être enfin à la hauteur de leurs attentes sur des processeurs qui consomment pas trop d'énergie, ce qui est pas du tout le cas avec les puces Intel actuellement, même si Intel, cette semaine, évidemment, s'agitait pour annoncer à quel point ils étaient contents de leur future puce graphique, parce que Intel va ressortir des cartes graphiques, hein, soyez prêts. Nvidia doit rigoler dans un coin, je pense. On verra ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, je m'avance pas trop, mais je reste prudent. Donc bref, là, ils ont Apple va avoir l'intégralité du contrôle sur toute sa chaîne. Donc au niveau intégration, système d'exploitation avec le hardware, bah, ils ont un niveau que personne n'a sur le marché. Ils ont un écosystème complet où ils maîtrisent absolument tout. Et donc, bah, ça devrait permettre des choses, en tout cas continuer de permettre d'avoir des applications qui se parlent avec des choses vraiment propres, s'ils nous font moins de bugs que l'année dernière. Merci beaucoup d'avance. Donc voilà, on va suivre ça de très très près. Je vous ai linké plein de papiers, vous avez plein de lectures. Venez en parler sur le forum avec nous. Partagez vos doutes. J'en ai aussi, je vous rassure. J'ai moi-même acheté une machine il n'y a pas très très longtemps. Mais bon, moi pour l'instant, je suis très content avec ce que j'avais en Intel. Donc j'attends de voir quels vont être les réels bénéfices de ce passage sur architecture ARM. Et pour l'instant, je suis encore un petit peu dubitatif, mais je vois très bien pourquoi ils le font. Mais bon, je ne suis pas convaincu complètement. Tu sais, moi, j'attends de voir. Je juge sur pièce.
Et c'est la fin de ce 137e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis ben là, on va passer un petit week-end studio en ce qui me concerne.
Alors toi, studio, moi, c'était la semaine dernière. Cette semaine, normalement, ça devrait être plus calme. J'ai un truc un peu chelou qui se prépare, donc on va voir. Mais bon, hein, j'espère que vous allez profiter. Bon, apparemment, la météo va peut-être pas tous nous gâter. Je sais que vous nous écoutez de partout, donc on n'a pas tous les mêmes problématiques pour la météo. Mais en tout cas, j'ai décidé de poncer du backlog, donc j'ai fini Bosch, il me faut aussi des nouvelles séries, et je connais un mec qui habite en Belgique qui me fait beaucoup trop de recommandations, donc ça n'est jamais fini, je n'en peux plus.
Et on vous rappelle, on vitesse l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, hein, si vous voulez nous soutenir, venir verser votre dîme mensuelle, 1€, 2€, 3€, ce que vous pouvez, ça nous fait du bien, et ça nous permet d'avancer, de produire des podcasts, et d'écrire des news pour le site. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.